Bon. D'abord, je, Baruch HaShem, j'ai vu que pas mal d'entre vous, vous avez pris le sidour de Rabbeinu qui vient d'arriver. Et Bémaître, c'est une grande émotion pour nous tous, parce que prier comme ça avec les enseignements de Rabbeinu, c'est quelque chose de très grand. Et je pense que la plus belle bracha qu'on peut se faire à nous toutes, c'est qu'on arrive à sortir encore des plus belles perles que ce qui a marqué dans le sidour. Et qu'à travers la tefila qu'on va faire, Bezrat Hashem, avec les explications, alors Bémaître, que ça va nous faire travailler notre cœur et qu'on va prier avec des émotions et que on va vraiment rechercher, ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, à travers notre tefilot, qu'on Bémaître, que nous toutes, on soit méritantes de prier avec le cœur. Amen. Ne serait-ce qu'une seule phrase. Soyons modestes et une seule phrase. Bezrat Hashem. Alors, deux choses. Il y a Michel qui a demandé à ce qui paraît, c'était quoi Azamra ? Azamra.
Francine, excuse-moi. Francine, elle est malade. Francine, elle est malade. Et Evelyne, voilà, elle nous a répondu.
Donc, je veux peut-être à côté, hein, j'en sais rien. Hein?
On l'avait fait, j'ai pas vu, moi, c'est Elo qui m'a dit, parle de. Azamra. Azamra, on l'avait étudié un petit peu. C'est la Torah 282 du Likutei Moharan de Rabbi Nachman. Et en gros, toute cette Torah, de quoi elle parle, c'est, on l'avait étudié un petit peu déjà ensemble, c'est d'apprendre à comprendre, d'apprendre et savoir juger chacun, d'accord, avec un regard positif. Et quand on dit chacun, c'est nous déjà aussi. Donc tout le inyan de la Torah de Azamra, c'était justement de juger chaque personne d'une manière positive, parce qu'on n'est pas à la place de l'autre et qu'on ne sait pas ce que l'autre y peut passer ou pas. Donc toujours regarder d'une manière positive, à tel point que quand on arrive à parler, à juger une personne d'une manière positive malgré les événements, parce que la difficulté elle est où ? C'est pas de juger une personne d'une manière positive quand il est sympa, quand tout se passe bien. Ça, tu ne fais pas de travail, puisque c'est... comment tu veux juger mal quelqu'un qui est sympa, Non, le travail, c'est... je vois des choses énormes, je vis et comprendre que tout ça, en réalité, il faut regarder d'un bon côté. Pourquoi ? Parce qu'à travers chaque situation, c'est Hachem qui se cache derrière cette situation. Même une situation dingue, une situation folle, une situation qui te fait mal, c'est Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'Hachem y veut en réalité ? C'est que toi, maintenant, tu ne te laisses pas attraper par le Yetzer Hara de dire « c'est une pourrie, et c'est une comme ça, et c'est… » Non. Hachem, qu'est-ce que tu veux me dire ici ? Le simple fait que tu vis une situation difficile et que tu es d'une manière… on va dire, tu as été contre nature, ça veut dire, tu vas chez Hachem et tu recherches Akadosh Baruch Hu, tu as déjà fait une réparation. Parce que la nature, c'est quoi ? C'est que quand tu vis une situation difficile, d'accord ? Donc, quelle que soit la situation, d'accord ? Que ce soit dans la matérialité, que ce soit avec des gens, ou que ce soit même dans ta spiritualité. À partir du moment où tu vas chez Hachem et tu recherches qu'est-ce qu'Hachem il veut, qu'est-ce qu'Hachem il attend, tu as déjà fait une réparation, parce que normalement, ça serait quoi ? C'est je donne le dos, j'abandonne tout et c'est fini. Donc, toute la Torah de Azamra, elle est basée sur ce nocé-là. Tu veux dire quelque chose ?
Oui, c'est pas que sur soi, c'est voir aussi ce qu'il y a de positif chez l'autre.
Oui, tu avais oublié.
Chez l'autre, oui, oui.
Non, non, non. Alors, ouais. Mais alors, je vais te poser une question parce que c'est marrant, enfin, c'est rigolo. Parce qu'hier soir, j'avais du monde et on parlait un peu de ça. Et il y avait un des convives, il a dit: ah ben oui, mais tout de même, écoute. Et je disais: mais il faut toujours voir le positif chez les gens, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Il y avait un très joli texte que Stéphanie a envoyé il y a quelques jours,
ouais,
qui était très beau là-dessus. Et je dis: il faut toujours, regarde, on ne sait pas. Et il m'a dit: oui, mais le type, si c'est un voleur et que tu sais que c'est un voleur, tu ne peux pas aller trouver quelque chose de positif chez lui. Alors voilà, je te pose je ne savais pas quoi répondre.
Même le voleur. Même le voleur. Alors, d'abord, je vais t'expliquer une chose. Le truc, c'est quoi? C'est que, sans justifier, bien sûr, le vol, d'accord, mais qui peut dire qu'il n'est pas voleur? On est tous des grands voleurs et des grands bandits. Tu lui diras à ton convive, pourquoi? Parce que chaque fois qu'il mange sans dire merci à Hachem...
C'est pas le cas pour lui.
Non, mais j'en sais rien. Quand on mange sans dire merci à Hachem, avant et après, ou quand, par exemple, on regarde quelque chose qui ne nous appartient pas, ça va très loin, le vol. Tu comprends?
On vole toute la journée.
On passe notre temps à voler. Donc,
c'est la cupidité. Oui.
Donc
on ment toute la journée,
on vole toute la journée. Seulement, il y a des degrés dans chaque chose. D'accord? Donc, tu peux dire le voleur n'a pas de réparation. Non, chaque être humain, il a une réparation. Et tu sais quoi? Il y a un yann aussi de faire tchouva sur le vol qu'on a pu faire. Mais comment je peux faire tchouva si je n'ai pas fait le vol? Tu comprends? Tu sais pas chacun sa manière de faire tchouva. Chacun de nous, on fait tchouva parce qu'on va passer par un événement. Un événement qui va être, tu vois, l'ouverture de notre cœur. Des fois, l'un, ça va être la perte de quelqu'un. L'autre, c'est par le vol, il s'est passé quelque chose. L'autre, c'est par un mensonge. Chacun, c'est par quelque chose, tu comprends? Mais ce qui est certain, c'est que même si je... Rabbi Nathan, il a dit... que ça va être Saïloula, si Dieu veut, le vendredi. Rabbi Nathan, il a dit, même si je vois quelqu'un transgresser toute la Torah devant moi 101 fois, j'arriverai encore à lui trouver du mérite. C'est Hachem qui juge, c'est pas nous. Parce que quand je vois une personne, quand moi je fais quelque chose de pas top, d'accord, et ça n'existe pas, quelqu'un il va dire, non, moi je suis top. Tout le monde, il a un problème. Ok? Qu'est-ce que j'ai envie de dire à la personne qui me voit? Lui dire, regarde, je sais ce que tu dois penser dans ta tête, mais ne me juge pas mal. Tu sais pas où j'en suis, tu sais pas ce que je passe, tu sais pas pourquoi je fais ça. Même moi, des fois, je sais pas. Donc, tu vois, il y a un seul juge, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que quand on voit une chose grave ou quand on vit une chose grave, alors, oui, tu vas chez Hachem, tu dis Ribono Shalolam.
Mais pour quelque chose de matériel, d'un comportement... Je parle du matériel, je ne parle pas du spirituel. Il y a bien une justice des hommes.
C'est bien là le problème. C'est que la justice des hommes, ben, elle se fait chacun selon sa propre vérité.
Et je parle d'un Bédine, hein, quand je dis la justice des hommes.
Tu sais, Rabbi Nachman, il parle beaucoup de ça, où il dit combien il faut prier pour que les Dayanim, ce soient des Dayanim Agunim. Qui soit juste et sincère et vrai et pas chas v'shalom des dayanim que tu peux aller soudoyer de temps en temps et que leur jugement et leur truc va être, tu vois, va changer. Hein?
C'est quoi, soudoyer, c'est quoi?
Que tu vas donner un peu d'argent, tu sais, pour... tu vas le corrompre, tu vois. Donc, ouais. Donc ça veut dire que dans tout, il faut faire attention. Il y a une justice divine. Et toute la justice, en réalité, elle doit être par rapport à la Torah. Et c'est très dur d'être un Dayan. C'est très dur d'être un Dayan. Parce qu'un Dayan, c'est quelqu'un qui doit fermer complètement ses yeux sur ce Olam Hazé. D'ailleurs, quelqu'un, un Dayan, un vrai Dayan en général, il ne va pas être très populaire parce que justement, il est complètement déconnecté de ce monde. Donc, il n'est pas, tu vois, ce n'est pas quelqu'un avec qui tu vas pouvoir... il fait attention parce qu'il sait. Il fait très, très attention. Donc, il y a une justice divine. On n'est pas là, nous, pour juger. Nous, on est là pour prendre exemple sur Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu du matin au soir avec nous, ses enfants? Il nous juge les kapsrout. C'est-à-dire, il nous juge avec indulgence. Toute la journée, il y a la Midat Adin qui vient. La Midat Adin, ça veut dire la... Mais pas la carême. La justice. La justice qui vient, qui dit à Hachem, regarde ce qu'elle fait, ce qu'il fait. Tata. Et Hachem, il dit, laissez, je m'en occupe, je sais. Moi, je sais pourquoi et moi, c'est ce qu'il fait Hachem. Donc, si Hachem lui-même, il fait ça, qui on est nous pour venir dire, attends, je prends la place d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas juger. La seule chose qu'on peut faire, c'est nous prier. Quand on voit une personne faire quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem, a priori, d'accord, c'est des Ribono Shel Olam. Je n'ai pas vu ça pour rien. Épargne-moi. Ne me mets pas moi dans cette situation. Ça, c'est la seule chose. Parce que On ne sait pas. Peut-être aujourd'hui, tu juges et demain, tu te retrouves à la place de la personne et tu dis waouh.
Et
tu
auras le même comportement.
Et pire.
Non, mais si tu as vu quelque chose, c'est-à-dire quelque part, tu as un petit pourcentage de ça en toi.
T'en sais rien. On ne sait pas. Peut-être aussi, peut-être. Tu comprends. Ce qui est sûr, c'est que quand tu vis une situation, tu dois dire HM, c'est pas pour rien que tu me fais entendre ou voir ou quoi une situation. C'est que, oui, je dois réparer quelque chose. Peut-être justement réparer cette vision et dire HM, protège-moi. HM, aide-la à faire tchouva, aide-le à faire tchouva. C'est tout, tu comprends? Mais venir nous commencer à casser une personne et à dire et ça, et ça, et ça, qui on sait? On n'est pas à Kadosh Baruch Hu. Alors, on va. Bezrat HM. Je voulais vous parler un petit peu, on va voir où c'est que ça va nous emmener. Donc, vendredi, c'est Asara Betevet, c'est le jeûne, d'accord ? C'est la première brèche qu'il y a eu dans le Beth Amikdash, et dans les murailles plutôt, et c'est aussi le jour de la mort de Rabbi Nathan. Alors, je voulais vous parler un petit peu de Rabbi Nathan, une autre facette encore. Déjà, il faut savoir que Rabbi Nathan reprend de la source. Rabbi Nathan, il vient de familles illustres. On ne peut pas imaginer qui étaient les parents de Rabbi Nathan. C'était des très, très, très grands talmidei chachamim. Et du côté de sa mère, et du côté de son père, c'était vraiment l'élite. Des gens très, très talmidei chachamim et aussi des gens aisés. Et Rabbi Nathan, on raconte comme ça qu'à l'âge de 4-5 ans, il avait son père ou son grand-père, mais je crois que c'était peut-être son père, qui était assis, d'accord. Vous savez, dans la synagogue, il y a toujours les places d'honneur dans le Mizrah. Et donc Rabbi Nathan, toujours il allait vers, je crois que c'était son grand-père, et un jour Rabbi Nathan y va, il voit qu'il y a une des chaises qui sont vides. Alors il lui dit, mais où il est le monsieur qui était là? 4-5 ans, les copines, comprenez bien. Où il est le monsieur qui était là? Alors son grand-père, que Dieu me pardonne, ou son grand-père ou son père. Il lui dit, eh ben, il n'est pas là, il est parti. Il lui dit, mais où il est parti? Et il lui dit, ben, il est parti dans un autre monde, dans le monde de l'au-delà. Et donc, il a commencé à lui expliquer, d'accord, ce que c'était que la mort, comme on peut l'expliquer à un enfant de 4-5 ans. Et Rabbi Nathan, il dit qu'à partir de ce moment-là, il a compris que ce monde-ci était un monde de Evel Avalim, ça veut dire un monde de vanité, et que la vraie vie, c'était dans l'au-delà. Ça, c'est Rabbi Nathan, d'accord, qui a pris conscience, je ne sais pas si vous imaginez, à 4-5 ans, quelle conscience il a pris, qui était Rabbi Nathan. On dit même que Rabbi Nathan, il s'est fiancé à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire qu'à l'âge de 12 ans, déjà, on l'avait repéré, son beau-père l'avait repéré. Et parce qu'il était appelé à un avenir, ça veut dire de Gadol Ador. C'était le Iloui, il habitait Nemirov, il était le Iloui de Nemirov. Le Iloui, ça veut dire, c'est plus qu'un génie, c'est le géant, à 12 ans. Déjà, on l'appelait le Iloui de Nemirov.
Il y a un rapport avec Iloui Nishmat, quand tu dis
Non, Iloui, je ne sais pas. Ouais, Iloui, ça veut dire un gadol, un grand, tu vois, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas fait la truc. Et donc, son beau-père, qui était le beau-père de Rabbi Nathan, c'était un très, 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 très grand tzaddik qui était rave sur 80 contrées, d'accord, là-bas dans leur pays de l'Est. Et il avait vu donc en Rabbi Nathan vraiment quelqu'un de très grand. Il n'avait pas de fils. Donc pour lui, il avait pris comme ça que Rabbi Nathan serait sa suite. Maintenant, la seule chose, c'est quoi? C'est que Rabbi Nathan est du côté de sa famille et du côté de son beau-père. C'était des mitnagdim. Ça veut dire quoi, des mitnagdim? C'était des anti-chassides. Ça veut dire que pour eux, la chassidoute, c'était à mettre très, très loin. C'était vraiment, il ne fallait pas du tout s'approcher de la chassidoute.
Pourquoi?
Parce que les gens avaient une des fausses idées sur la chassidoute. Ils pensaient que les gens n'étaient... Parce qu'à l'époque, c'était que le limoud à Torah. L'étude, c'est tout. Et l'étude, elle était que pour une certaine élite. Tu comprends? Donc, c'était comme ça. C'est-à-dire, il y avait les gens du peuple, tu vois, et il y avait l'élite. Et donc, ils venaient vraiment, ça veut dire, des deux côtés, c'était que des élites. Maintenant, Rabbi Nathan, et c'est marrant parce que le beau-père de Rabbi Nathan, comment il est né? Grâce à la bracha du Baal Shem Tov. C'est-à-dire que le père du beau-père, d'accord, n'avait que des filles. Et il avait essayé des brachot, des machins. Et un jour, on lui a dit, va chez le Baal Shem Tov, il va te faire une bracha. Bon, il a été. Il lui a dit, moi, je peux t'ouvrir une porte pour que tu aies un garçon. Il lui a dit, mais c'est impossible. Tu peux penser, c'était tous des géants, tous des tzadikim. Il lui a dit, c'est impossible. J'ai tout été dans les shamaim. Et j'ai essayé d'ouvrir toutes les portes. Je sais que mon âme ne peut pas apporter un fils. Et le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, c'est vrai, mais il y a des portes que tu n'as pas pu ouvrir, que moi j'ai les clés de ces portes. Donc moi je peux te dire que, salut Alexia, que moi je peux te faire avoir un fils. Il lui a dit, je peux te donner la bracha. Donc le beau-père, d'accord, il a dit d'accord. Il lui a dit, mais une condition, c'est que je sois le Sandak. Il a dit d'accord. Et Bémet, que le Baal Shem Tov, il a été le Sandak, donc du beau-père de Rabbi Nathan. Mais malgré tout, ils étaient anti-chassidout. Maintenant, c'est fou, c'est comme ça. Ouais. Rabbi Nathan, donc, qui était un géant dans l'étude, un géant, ça veut dire toute sa vie, il voulait se rapprocher d'Hachem. Il a, à 12 ans, donc, il était fiancé. Il s'est marié à l'âge de 13 ans et 5 mois. Normalement, il aurait dû se marier à la bar mitzvah, mais il y a eu un petit retard. Donc, il s'est marié à 13 ans et demi. Mais Rabbi Nathan, malgré qu'il était, il recherchait Hachem, il servait Hachem, il était que dans l'étude, il sentait qu'il y avait un manque. Il y avait quelque chose qui le dérangeait. Et il cherchait, il demandait à Hachem, il demandait à Kadosh Baruch Hu. Et on dit comme ça que un jour, Rabbi Nathan, il a commencé vraiment à rechercher à Kadosh Baruch Hu et il disait. C'est vrai que je suis dans le limoud, c'est vrai. Et il était promu avoir un très grand avenir, mais quand même, il manquait quelque chose. Maintenant, Rabbi Nathan, il avait des copains, dont Rabbi Naftali et Rabbi Lipa. C'était des bons copains à lui, vous savez, de la yeshiva, comme vous direz. Et une fois, Rabbi Lipa, il s'est rapproché comme ça du mouvement chassidique. Et quand il est revenu de chez Rabbi Nachman, Rabbi Lipa, Rabbi Nathan, il a vu quelque chose de spécial. Il a vu que Rabbi Lipa, il était là, il priait, c'était les slichot, il priait avec une ferveur, il était... Il dit, mais attends, qu'est-ce qui lui arrive à Lipa? Qu'est-ce qu'il a? J'ai jamais vu ça. Il n'est pas comme ça d'habitude, Lipa. Il est détente comme ça, tu vois, normal. Alors, il lui a dit, mais d'où tu viens? Il lui a dit, j'ai connu un rav, il s'est rapproché de la chassidoute. Donc, Rabbi Nathan, tout de suite, il a dit, je veux aller voir ce qui se passe alors du côté de la chassidoute, puisque lui, il sentait un manque. Et donc, Rabbi Nathan, il a commencé à voyager, à aller voir donc des grands admourim, des grands rabbis de chassidoute. Il est même arrivé chez Rabbi Levi Tzrak de Bertichev. Rabbi Levi Tzrak de Bertichev, qui était un gadol, qui était aussi très proche de Rabbi Nachman, d'accord. Quand il a vu Rabbi Nathan, il a tout de suite compris la grandeur de Rabbi Nathan, à tel point qu'il a dit, c'est mon Rabbi Nathan. Il l'appelait mon Rabbi Nathan. Et il pensait même à un moment donné, il s'était dit, Rabbi Nathan, quand moi je partirai de ce monde, il va prendre ma place. Ça veut dire vraiment, pour vous dire comment Rabbi Nathan, il avait un avenir, mais tout tracé. Je sais pas, on peut pas nous imaginer. Dans le matérialité, tu dis, je sais pas moi, le fils d'un très grand riche, très milliardaire du monde entier, il prend son truc. Tu dis, bon, il a un avenir tout tracé, le gosse. Il est tranquille. C'est-à-dire, même il est nul à l'école, il a un avenir tout tracé. Et donc, il a même écrit Rabbi Nathan. C'est lui qui a écrit qui a compilé, on va dire, et qui a aidé le Rabbi Levi Tzrak de Bertichev à écrire le livre Kdushat Levi, qui est un livre très très Mamash, à ce qui paraît vraiment que c'est des Talmid et Chachamim qui étudient ça. Mais quand même, Rabbi Nathan, il sentait un manque. Il y avait quelque chose qui lui manquait.
Attends, je te coupe deux secondes. Comment ils pouvaient rejeter les chassidim? C'est contradictoire à ce qu'on a dit sur Azamra.
Ah, mais il n'y avait pas Azamra à l'époque. Il n'y avait pas encore Azamra. Attends.
Il n'y avait pas le concept.
Il n'y avait pas ce concept encore. Ça veut dire Rabbi Nachman existait dans le monde. Rabbi Nachman, n'oubliez pas qu'il était aussi très jeune encore, Rabbi Nachman, d'accord? Mais il n'y avait pas encore le dévoilement du tzaddik. Tu comprends? Et puis la chassidoute, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opposition. Parce que quelque part, c'est comme si que je te dis, il y avait l'élite et il y avait les pauvres. Imagine que les pauvres, maintenant, ils viennent, ils disent à l'élite, « Allez l'élite, dégagez, on va prendre votre place. » Mais même pas en vrai, on ne va pas vous laisser. Il y avait, bien sûr qu'il y avait. Donc,
il y avait le jugement négatif.
Il y avait un jugement négatif, il y avait une opposition très forte. Alors, alors, il y a marqué comme ça, je voudrais vous lire cette... comment Rabbi Nathan, en réalité, comment il a commencé, d'accord, à se rapprocher de Rabbeinu. Il dit comme ça, Rabbi Nathan, il a fait un jour une... Donc Rabbi Nathan, il cherchait, et un jour, il a fait un rêve, Rabbi Nathan, il a vu une échelle. Il a vu une échelle qui montait comme ça jusque dans le ciel. Et Rabbi Nathan, il a commencé à vouloir monter. Il montait. Et à chaque fois qu'il allait arriver au sommet, pof, il dégringolait. Et il remontait. Et il était très mal. Ça veut dire, il en pleurait dans son rêve. Il pleurait. Il avait mal, ma marche, dans tous ses membres. De voir qu'il monte, il monte, il va presque arriver. Et poc, il tombe. Jusqu'à qu'à un moment donné, il voit un jeune visage, un avraire, comme ça, un homme de Torah. qui lui dit tiens bon, ne te décourage pas. Et il se réveille à ce moment-là. Bon, ok. Et là, Rabbi Nathan, il a senti qu'il allait avoir une grande délivrance. Vous savez, souvent, je ne sais pas si... on vit ça souvent. On vit des moments très, très, très durs. Et c'est des épreuves. Et encore. Et on voit. Et on se dit, mais... Attends, je ne vois pas le bout du tunnel, quoi. C'est complètement noir. Mais à ce moment-là, quand tu arrives à un moment comme ça de presque, tu vois, de désespoir, presque tu te dis, mais je ne vois plus la fin. C'est là où Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi, il t'envoie, il te dit, tiens bon, surtout ne lâche pas. Tu vas avoir ta délivrance, tiens bon. Et c'est bidouk ce qui s'est passé. Rabbi Nathan, il a senti à ce moment-là qu'il allait avoir une délivrance. Alors...
Quel âge?
Alors, Rabbi Nathan, ce rêve qu'il a fait un an avant de rencontrer Rabbi Nachman. Donc, Rabbi Nathan, il avait 21 ans. Tout ce que je te raconte, que c'était un ilouï, un géant. Non. Et Rabbi Nachman, il devait avoir 30 ans. Puisque quand ils se sont rencontrés...
On passe maintenant à Rabbi Nachman?
Oui, non. Non, je te parle.
Rabbi Nathan, il est allé chez le Balam Shem
Tov. Non. C'était le beau-père de Rabbi Nathan qui a été le Balam Shem Tov a été le sandak du beau-père de Rabbi Nathan. D'accord, c'est tout. Ça, c'était une parenthèse. Donc, quand Rabbi Nathan il a rencontré Rabbi Nachman. Rabbi Nathan a fait le rêve à 21 ans. À 22 ans, il a rencontré Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il avait 30 ans. D'accord?
Donc, c'est pas lui qui a dit mon Rabbi Nathan.
Attends, non, c'était déjà Rabbi Levi Tzrak de Bertitchev. Ça veut dire, comprends une chose, de qui on parle? Mais on parle de gamin. On parle de gosse. Ça veut dire, aujourd'hui, tu prends un de 22 ans, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Un de 30 ans, ça veut dire, et eux, déjà, ils sont mariés, les gosses, et. Enfin, non, Rabbi Nathan, il n'avait pas encore. Hein, qu'est-ce que tu dis?
Je vais à la PlayStation.
Oui, Bidouk, ils étaient occupés normalement, d'accord, à jouer, comme tu dis, à la PlayStation, à rechercher des filles, enfin n'importe quoi, d'accord. Là, on parle de personnes qui avaient une recherche d'Akadosh Baruch Hu, quelque chose d'énorme, quelque chose de très très grand. Alors, il y a marqué comme ça, que quand maintenant Rabbi Nathan... Il a vu Lipa qui dit « Je suis revenu de chez un rabbi qui s'appelle Rabbi Nachman. » D'accord ? Que Lipa, maintenant, il a été chez Rabbi Nachman par hasard parce que c'était une place où il y avait les marchés là-bas à Breslev. Et donc, l'IPA, qui était aussi un business, hein, c'était tous des gens qui étaient dans le business, hein, faut pas croire. Ils bossaient, ils avaient des affaires et tout. On lui a dit, ben, tu sais quoi, il a été faire ses affaires. Donc, on lui a dit, ben, écoute, il y a un tzadik là, Rabbi Nachman, va le voir. C'était, je crois, un dimanche. Et il est plus rentré jusqu'au vendredi. Il a dit, il pouvait plus se détacher. Donc, quand Rabbi Nathan, qui connaît son copain Lipa, qui est sympa, mais c'est pas un truc, quand il a vu prier avec, je te dis pas, ferveur, il a dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? D'où il vient? Qu'est-ce qui lui arrive? Donc, quand il lui a dit, j'étais chez Rabbi Nachman, avec son copain Rabbi Naftali, c'était Shacharit, ils ont dit, tout de suite, on sort, maintenant on prend une agala, un chariot avec le truc, et on va aller voir qui c'est ce Rabbi Nachman. Alors il dit comme ça, il y a entre Nemirov et Breslev environ 14 kilomètres qu'on couvrait en 2 heures à l'époque des diligences. Alors arrivé à Breslev, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, donc c'était tous une bande de petits copains comme ça, ils se rendirent d'abord donc chez Rebbe Berel d'Ouvrichis, qui ne tarissait pas de récits concernant les merveilles de Rabbi Nachman. Cette maison est pleine du Rebbe, devait se dire Rabbi Nathan. Ça veut dire, en réalité, il n'est pas arrivé chez Rabbi Nachman d'un coup. Il y avait une préparation. Il y avait comme un gagoua, un languissement. On lui faisait comme ça, tac, tac, un peu. Et après, donc... Tu sais, c'est comme quand on va à Ouman.
Ouais, c'est ce que tu...
hein? On ne vous fait pas directement le projecteur dans la tête. Léat. On y va doucement, doucement. Parce qu'il faut préparer votre neshama à ce qu'elle va recevoir, d'accord, la lumière du générateur. Tu vas recevoir 100 milliards de volts. Ta neshama, elle attend ça depuis qu'elle est venue dans ce monde. C'est ce qu'elle attend, ta neshama, c'est de retrouver le tzaddik. Donc tu comprends que tu ne peux pas arriver comme ça. Il y a un chemin. Le chemin, il débute depuis quand? Il débute depuis le jour où tu es né. Et que ta neshama, elle est là en recherche. Et qu'Akadosh Baruch Hu te fait passer étape par étape, des montées, des descentes, des trucs de dingue. Tu vas vivre des histoires de fous. Jusqu'à que tu vas arriver chez le tzaddik. Alors il dit comme ça, ils se rendirent ensuite chez Rabbeinu lui-même. Ils se présentèrent évoquant certains de leurs illustres ancêtres. Donc t'imagines là, Rabbi Nathan, il vient, c'est comme si je te dis, pour illustrer qui c'est qu'on a comme très grande sadique, qu'on connaît toutes, des géants. On va dire, Baba Salé, tu veux? D'accord, Baba Salé, que c'est des géants. Alors imagine-toi le fils de Baba Salé, il vient. Et il lui dit, et il vient donc chez Rabbi Nachman, il lui dit, je suis un tel, fils de un tel, et fils de un tel, et ça veut dire le kavod. Je suis pas n'importe qui. Tu reçois chez toi un géant, et je suis aussi amené à être une star. Une star, ça veut dire, moi je vais diriger partout, moi je vais être le rab de partout, donc presque j'ai envie de te dire, lève-toi Rabbeinu, tu sais pas qui tu as devant toi. Et donc il lui dit, hein, et là Rabbeinu, non, je t'image pour te donner le truc, d'accord? Et donc Rabbi Nachman, quand il entend, je suis le fils de, imagine ton fils, il vient maintenant, d'accord? Il dit, je suis le fils du docteur Intel et nanana. Donc tu vois, il y a un peu de caveau, d'être mal à la sotte. Et là, qu'est-ce qu'il lui répond Rabbeinu? La claque. Tous de bons juifs. Quoi? Je t'ai fait l'arbre généalogique, c'est tout ce que tu as à me dire? Tous de bons juifs? Rabbi Nathan dit ensuite au Rebbe qu'il avait une lointaine parenté par le grand-père de Rabbeinu, Rabbi Nachman Orodenker. Et là, Rabbeinu, il lui dit, je ne suis plus seul maintenant. Ça veut dire que quand Rabbeinu, il a vu Rabbi Nathan, d'abord, Rabbi Nathan, il a eu un choc, il le dira après, d'abord, Rabbi Nathan, il a eu un choc, c'est quoi? C'est que quand il a vu Rabbeinu, il y a une grande peur qui est rentrée en lui, une ira comme ça, une crainte, et il s'est rappelé son rêve. Cet homme qui lui avait dit, tiens bon, ne te désespère pas, il a reconnu. C'était cet homme-là, c'était Rabbeinu. Et Rabbeinu, quand il a vu Rabbi Nathan, alors il lui a dit comme ça, il lui a regardé, il lui a dit, on se connaît depuis déjà très très longtemps, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce qu'on sait? Que la neshama de Rabbi Nathan et la neshama de Rabbi Nachman, depuis Yémé Bereshit, et à savoir encore d'où et comment, depuis, ça veut dire les six jours de la création, elles étaient ensemble. Il a fallu attendre toutes ces années, ça veut dire cette histoire-là dont on parle, c'était il y a 200 ans, 200 quelques années, d'accord, cette rencontre, 230 ans, cette grande rencontre historique, d'accord, qui s'est passée pour qui? Pour nous. Les dernières Neshamot avant Mashiach, où on doit nous faire une réparation qui n'est pas une réparation simple. Parce que notre réparation à nous, c'est quoi? C'est la Emouna. C'est tellement dur, la Emouna. C'est tellement difficile, parce que la Emouna, elle est là, elle est dans notre cœur. C'est une avodat Hashem dans le cœur. Ça veut dire que tu dois complètement briser tout ce que tu as à l'intérieur de toi-même. Et ça, il n'y avait qu'une union entre Rabbi Nachman et son élève Rabbi Nathan. Pourquoi est-ce que Rabbi Nachman, il ne pouvait pas le faire tout seul? Il y a un inyan comme ça que, depuis, on le sait même depuis même Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah, d'Akadosh Baruch Hu, et il l'a transmis à son élève. Il y a toujours besoin, un maître a toujours besoin de son élève. Parce que des fois, le maître, il ne peut pas faire des choses que l'élève va faire. Yehoshua.
Et le Arizal, c'était Rabbi Haïm
Vital. Alors, il lui a dit comme ça. Donc, comment il lui a dit? Cela fait longtemps que nous nous connaissons, mais il y a longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés. Et donc là, ils ont commencé, d'accord, à parler les deux ensemble, à raconter des choses. Et là, Rabbi Nathan, il a senti quelque chose dans son cœur. Il a dit, ça y est, tout ce que j'ai cherché tout au long de ma vie, ça veut dire ce petit feu-là qui me manquait, cette itlavout, cet engouement pour la Avodat Hashem, je l'ai trouvé chez Rabbi Nachman. On était un petit peu avant Rosh Hashanah, et donc Rabbi Nathan, c'était fini, il était complètement, c'est comme si tu dis, tu as trouvé ton truc, tu ne peux plus te détacher. Il avait reçu, il s'abreuvait, il recevait une lumière, il était complètement... Il a dit, mais il faut que je rentre, parce que c'est Rosh Hashanah, je dois aller chercher mes affaires de Shabbat, pour revenir. Et donc Rabbi Nathan, il est parti, il est reparti très vite. D'abord, quand le premier Shabbat que Rabbi Nathan il a fait là-bas, chez Rabbeinu, après manger, tout le monde est parti. Et Rabbi Nathan, il a dit quoi? Tout le monde rentre chez lui, tranquille, tout le monde va aller dormir. Il a dit, mais je peux pas, c'est pas possible, il y a quelque chose de fort ici, c'est impossible. Et Rabbi Nathan, il est descendu près du fleuve. Vous savez, quand on va chez Rabbi Nathan en bas, il y a le fleuve Boug là-bas. Et il a commencé à crier, Hachem, Hachem, il y a un feu à Breslev, il y a un feu qui brûle à Breslev, rentre-moi ce feu dans mon cœur. Et ça a été la phrase mamash mythique de Rabbi Nathan, que toute sa vie, il a entretenu ce feu. Ça veut dire quoi ce feu-là? Ça veut dire que toute ta vie, en réalité, tu te renouvelles. Toute ta vie, tu actives le feu. C'est-à-dire, tu ne rentres pas dans une sorte de routine. Ton avodat Hashem n'est pas une routine. Tu rentres pas dans la vieillesse et dans des choses où tu te dis, bon voilà, c'est maintenant, c'est comme ça, c'est ma petite vie, je fais mon petit truc. Rabbi Nathan, il a tout laissé, il a tout abandonné. Maintenant que vous compreniez qu'est-ce que c'est Breslev, Rabbi Nathan, en quittant Breslev pour aller chez Rabbi Nachman, c'est le Iloui Rabbi Nathan, ça veut dire on lui donnait du kavod, on était complètement en transe quand on le voyait, tellement c'était un avenir prometteur. Et quand il est rentré de Breslev pour chercher ses habits, et qu'il est parti, il a commencé à prendre donc ses choses, et sa femme elle a dit, mais il ne va pas partir, il va pour Shabbat, il va revenir, il ne va pas mettre ses seuls Rosh Hashanah. Et donc, pour aller à Breslev. À Breslev, à l'époque, Rabbi Nachman était à Breslev. Et donc, Bémet, que Rabbi Nathan, il est parti et il est resté chez Rabbi Nachman pour Rosh Hashanah et même pour Kippour. À son retour, c'était plus, on ne l'appelait plus le Iloui Rabbi Nathan, on l'appelait l'idiot Rabbi Nathan.
Voilà. Et il habitait où, Rabbi Nathan?
À Nemirov. C'est pas loin de Breslev. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que Rabbi Nachman, c'est quoi en réalité la force du tzaddik? La force du tzaddik, c'est de te prendre, de prendre chacun de nous et de donner à chacun de nous ce qu'il a besoin, selon la racine de sa neshama. Chacun, ça veut dire Rabbeinu, il sait exactement comment il doit réparer, qu'est-ce qu'il doit réparer, et Rabbeinu, il va commencer à faire un travail. Et on voit que Rabbi Nathan, d'être de la star, il est descendu à l'état de l'idiot du village. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais chez Rabbi Nachman ? Qu'est-ce que tu fais ? Aux yeux des autres, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais chez Rabbi Nachman ? Qu'est-ce que tu fais avec les chassidim Bichlal ? Et on voit, Bémet, que dès qu'on veut, on veut se rapprocher d'Hachem, on veut commencer donc à faire tchouva, mais encore une fois, c'est la tchouva du cœur. Ce n'est pas une tchouva extérieure. La tchouva du cœur, ça veut dire que tu vas casser toutes ces écorces qui entourent ton cœur, toutes ces pierres, tous ces résidus, et tu vas commencer justement à rechercher le émet. Un émet sans aucune transition. Un émet qui va te faire bouger de ton confort. Un émet qui va en réalité te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avec la crainte d'Hachem, mais aussi avec l'amour d'Hachem. Cet amour, en réalité, il va être tellement fort que tu vas établir un lien très, très intime avec Akadosh Baruch Hu et que tu vas aussi, par amour pour Hachem, tu vas te transformer. Par amour pour Hachem, tu vas t'éloigner, ça veut dire de ce monde-ci. Tu vas comprendre que ce monde-ci, il ne t'amènera rien. Il ne t'amènera rien du tout, ce monde-ci. Au contraire, ce monde-ci, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Et il veut régner dans ton cœur. Et c'est là le début des souffrances. Et Rabbi Nathan, donc, s'est complètement détaché de tout et s'est rapproché de Rabbeinu jusqu'à un moment que même sa femme, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus être arrivée au bout parce que son mari, c'était devenu que le limouda Torah, que la tfila. Elle est partie voir son père, son illustre père. Et elle lui a dit, papa, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Presque, elle lui dit, je veux divorcer. J'en peux plus d'être mariée avec Rabbi Nathan. Il est en train de me rendre dingue. Alors son père, il lui dit, j'ai une question à te poser. Est-ce que Rabbi Nathan étudie moins qu'avant ? Et là, elle lui dit, moins qu'avant ? Elle lui dit, mais papa, il étudie plus qu'avant, il ne s'arrête plus, il n'y a que ça, que l'étude. Et là, son père, qui était pourtant contre la chassidoute, il lui a dit, alors si c'est comme ça, ma fille, il lui a dit, non seulement tu retournes chez toi, il lui a dit, et tu vas servir Rabbi Nathan. Il lui a dit que tu as le mérite de servir un Rabbi Nathan. Ça veut dire qu'il a compris, malgré tout ce qu'on peut dire, il a compris, ça veut dire que Rabbi Nachman, il était en train de le transformer. Rabbi Nachman, il était en train, ça veut dire, de rendre Rabbi Nathan, d'accord, le Rabbi Nathan qui allait arriver. Maintenant, Rabbi Nathan Bémet, on sait que grâce à lui, on a aujourd'hui toute la chassidoute Breslev, mais surtout une chose qu'on doit comprendre, c'est que Rabbi Nachman, il avait beaucoup d'élèves. Il avait beaucoup, beaucoup de talmidim. Et il n'avait pas seulement des petits jeunes. C'était des très, très grands talmidim. On parle de Rabbi Yudel, si je me rappelle bien, qui avait 60 ans, qui était déjà un admour, qui était déjà un tzaddik, il avait déjà des élèves, qui est venu devant Rabbi Nachman, qui n'avait que rien, 30 ans, okay, c'était des gamins, et qui s'est complètement annulé à lui. Donc Rabbi Nachman, il avait beaucoup d'élèves. Mais quelle est la particularité de Rabbi Nathan ? C'était l'élève de Rabbeinu, d'accord. C'est lui qui a transcrit toutes les leçons de Rabbi Nachman. On lui doit le Likuté Tfilot, que c'est pour celui qui sait lire l'hébreu, mais il y a aussi en français, mais que celui qui sait lire l'hébreu, mais même si vous ne comprenez pas, lisez le Likuté Tfilot, votre cœur. Mais en hébreu, tu ne peux pas imaginer. Tu ne comprends rien, ce n'est pas grave. Quand ta neshama, elle comprend, quand tu lis le Likuté Tfilot et que tu ne le comprends pas, mais ta neshama, elle est en émotion, elle est en ébullition. On lui doit les Alim les Troufa, on lui doit le Likuté Halakhot, c'est un recueil sur toute la Halakha.
Mais ce qui me dérange quand même, c'est son rapport avec sa femme.
Mais à la fin, ils ont eu un shalom bayit de dingue. Sa femme, à la fin, elle a fait tchouva à la fin, sa femme. Elle a compris qui était son mari. Mais quelle est la particularité, Bémet, de Rabbi Nathan ?
C'est pas l'édition des livres, mais c'est lui qui a édité
C'est lui qui a édité, c'est lui qui nous a... Si aujourd'hui, on a les livres, d'accord ? C'est grâce à Rabbi Nathan, Nachon. Mais Rabbi Nathan, c'est lui, c'est le seul qui a développé le concept du tzaddik. C'est lui qui a compris que Rabbeinu, c'était pas juste un tzaddik. Il a compris qu'en réalité, Rabbeinu, c'était le tzaddik. Et que tout doit passer par lui. C'est lui qui a instauré le Inyan, parce que Rabbeinu, il disait, tous mes élèves doivent être là à Rosh Hashanah, du temps de son vivant. Mais il a compris que même quand Rabbeinu partira de ce monde, c'est lui qui a instauré le rassemblement de Rosh Hashanah. C'est lui qui a instauré tout ce rassemblement. Ça veut dire que c'est lui qui a développé l'amour qu'il avait pour le tzaddik, la compréhension qu'il avait du tzaddik. C'est lui qui l'a développé, qui nous l'a fait passer. Ça, c'est la particularité de Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, dans son testament, il a écrit une chose, il a dit « Soyez fort en amitié et en argent. » Fort en amitié, qu'est-ce que c'est que de l'amitié ? L'amitié, ça veut dire un ami, c'est quelqu'un qui va t'aider à te rapprocher d'Hachem. C'est quelqu'un qui va t'aider à te ramener vers la vraie vérité. C'est ça, un ami. Un ami, c'est aussi quelqu'un qui va, chas v'shalom, jamais te jalouser. C'est ton ami. Il ne peut pas te jalouser parce qu'il t'aime très fort. Il aime tout ce que tu es. Il ne va pas regarder rien. C'est ça, un ami. Il ne va pas te jalouser. Ça veut dire, dans l'amitié, d'accord, il ne faut pas, chas v'shalom, si tu as une amie et que tu dis « Oui, j'ai une amie, elle me jalouse ou je la jalouse », on n'est pas amis. Dans l'amitié, on doit être très fort. Et être fort en argent, ça veut dire quoi ? Pourquoi être fort en argent ? Parce que, qu'on le veuille ou pas, et aujourd'hui on le voit à tel point comment c'est fort, l'argent, c'est un moteur, c'est le nerf de la guerre. Pour pouvoir diffuser des livres, pour pouvoir imprimer des livres, pour pouvoir rapprocher des gens... Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et Rabbeinu, il avait dit, rapprochez d'abord les gens importants. Pourquoi ? Parce que quand tu rapproches les importants, ils ramènent la masse avec toi. Au lieu d'aller chez chaque petit, que des fois c'est difficile, alors on te dit, essaye d'aller toucher les grands, parce que les grands, si tu as touché le grand, il va ramener avec lui plein. On va dire, attends, si un tel, il s'est rapproché, si un tel, il a compris, alors viens, on va aller voir ce qui se passe. Donc Rabbi Nathan, il nous a demandé d'être très fort et en amitié. Et sachez que l'amitié, il n'y a pas de limite. Dans l'amitié, c'est nos limites. On peut parler avec un ami, on peut s'exprimer, on peut déverser son cœur. Et un ami, il ne va jamais mal nous juger, chas v'shalom. Un ami, il ne va jamais dire, mais elle est folle. Mais un ami, par contre, il va être capable de te dire, regarde, là tu te trompes. Reprends ton truc. Avec adinout, ça veut dire avec finesse. Pas, il va te rentrer dedans. Un ami, il sait comment te parler. Il sait comment t'emmener chez Hachem. Donc, il faut être fort en amitié et il faut être fort en argent en se disant, l'argent qu'on a, il faut l'utiliser pour l'impression des livres. Pourquoi ? Parce que plus il y aura des livres, plus la Torah du tzaddik, elle va être répandue et plus Béhémet, nous d'abord, ça va nous renforcer parce que si on n'avait pas le tzaddik, comment on serait aujourd'hui ? On serait complètement perdu. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être, 30 ans, 40 ans peut-être. Quelle Torah on nous a enseigné ? Une Torah de rigueur. Une Torah où Pachout, c'était que le onesh, ça veut dire la punition. Et si tu ne fais pas ça, il va t'arriver ça. C'était une Torah presque un petit peu où il y avait beaucoup de... culpabilité, mais tu sais comment on dit en français, les gens de la superstition, c'était beaucoup ça aussi. À aucun moment, d'accord, on nous a pas mis en évidence qu'Hachem il nous aime très 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 fort. Kakadosh Baruch Hu, il fait attention à nous, il nous juge avec indulgence. Et que quoi qu'on fasse ou qu'on aille, Kakadosh Baruch Hu, il est avec nous, il nous abandonnera jamais. et que le désespoir, il n'existe pas pour personne. Et que de là où on est, même au plus bas de l'échelle, on peut toujours remonter. On n'a pas reçu ça. Ça veut dire aujourd'hui, nous, Baruch HaShem, on a le tzaddi qui nous enseignait ça et on est fort. On est très fort. Parce que quoi qu'il arrive, on dit, je peux remonter, je sais qu'HaShem il est là, le tzaddi qui s'occupe de moi, le tzaddi qui nous a dit, n'ayez peur de rien, je marche devant vous, ne vous inquiétez pas. C'est ça la force du tzaddi, ça veut dire que tu as une personne qui est venue et qui te dit, ne t'inquiète de rien. Accroche-toi à moi, je marche devant toi, moi je vais gérer les choses. Aie confiance en HaShem. Tout ce que tu passes dans ce monde-ci, toutes les épreuves, les montées, les descentes, des fois une personne, elle était tout en haut, elle se retrouve tout en bas, et les gens, ils ont peur, qu'est-ce qu'on va devenir, comment on va être? N'aie peur de rien. Il y a Akadosh Baruch Hu qui gère son monde à la perfection. Plus tu t'accroches à HaShem, en passant par le tzaddik, qui est ton meilleur avocat, plus tu t'accroches, d'accord, à la Torah du tzaddik, et plus tu verras comment ta vie, elle va changer. Comment tu vas voir les choses, elles vont se transformer. Mais en réalité, ce n'est pas les choses qui se transforment. C'est toi qui te transformes. C'est ton cœur. Tu vois les choses différemment. Tu prends du recul. Tu juges différemment. Tu commences même toi à t'apprécier. Tu commences à t'aimer. Oui, mais t'inquiète pas.
Par rapport à HaShem, parce que si on voit que ça nous fait du bien, que c'est bien, que c'est matine, tu vois, c'est
la... Nachon, mais... Mitor lolishma, yavolishma. Au début, tu le fais par égoïsme. Tu le fais parce que tu dis, c'est mon confort, ça me fait du bien. Mais tu vas voir que plus tu vas avancer, plus tu vas t'accrocher au tzaddik et plus tu vas ressentir. C'est pas que à toi que ça fait du bien. Ça fait du bien au monde. Tu fais plaisir à HaShem. Est-ce que tu peux t'imaginer? Imaginez 2 minutes, fermez les yeux, 2 minutes. Imaginez-vous, quand vous faites quelque chose, par amour pour HaShem, mais le plaisir qu'HaShem il a, moi, le sourire, l'amour d'HaShem. Imagine-toi quand tu fais sourire HaShem.
Réponds-moi.
Tu peux le faire par crainte, mais...
Non, c'est pas que je peux, c'est que je le fais par crainte.
Fais-le par amour. Aime HaShem. Aime HaShem. Il y a une crainte d'HaShem. Attends, excuse-moi. Il y a une crainte d'HaShem, bien sûr. Mais il ne faut pas... Mais bien sûr qu'il faut avoir la crainte d'HaShem. Mais la crainte, souvent, elle t'emmène dans des endroits un peu obscurs.
Un peu triste.
Triste, obscur. Aime HaShem, tu sais quoi? Dis-toi, je ne sais pas, je fais un effort.
Des fois, je n'ai pas envie.
Tu n'as pas envie de quoi?
De faire une prière ou quoi?
Eh bien, justement, tu vas chez HaShem, tu lui dis, je n'ai pas envie de la faire, la prière. Ben, oui. Et après, tu dis, HaShem, donne-moi l'envie, donne-moi le truc. Et si tu arrives à faire même un mot de la prière, tu sais le sourire qu'HaShem, il va faire? Pensez au sourire d'HaShem.
Je ne le fais pas des fois avec...
Pense au sourire d'HaShem. Les copines, je vous promets, si seulement vous fermez vos yeux de temps en temps, vous imaginez Akadosh Baruch Hu avec un sourire, un regard bienveillant. Ah, ça te remplit le cœur. Tu te dis, mais c'est merveilleux. J'ai fait sourire HaShem, je lui ai donné du plaisir. Imagine-toi quand ton enfant, il fait quelque chose de bien. T'es là, tu souris, t'es émerveillé. Pourtant, ce qu'il a fait, c'est affreux. Un dessin tordu, moche comme tout, tout ce que tu... Mais t'es merveilleux, t'es émerveillé. Et ton enfant, il voit ton sourire. Et ça le renforce. Tu sais quoi? Tu renforces ton enfant. Tu lui donnes l'assurance pour la vie entière. Pourtant, le dessin... Eh ben c'est ça, HaShem. HaShem, quand tu vas et que tu fais quelque chose et que tu te dis pas, bon, j'ai fait Shabbat, bon, j'ai mis une jupe, bon, j'ai fait ça, bon, j'ai fait une prière. Non. Regarde, HaShem. J'ai mis une jupe, j'ai fait Shabbat, j'ai fait une prière, j'ai dit un mot pour toi. Regarde, c'est vrai que notre dessin, en vrai, si on regarde bien, mais dans l'absolu, il est tordu, plus que tordu. Mais il s'en fout, HaShem. Qu'est-ce qu'il s'en fout si t'as fait un trait rouge, un trait noir, t'as dépassé, il s'en fout. HaShem, qu'est-ce qu'il voit? T'es venu lui montrer ton dessin avec un sourire. tu as voulu lui faire plaisir et là Hachem il fait un sourire énorme. Toute cette Torah, c'est la Torah que Rabbi nous a laissée à travers Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, toute sa vie, Rabbi Nathan, il a cherché Béhémet à développer ce concept, l'amour d'Hachem, et ne jamais se désespérer, quoi qu'il arrive. Toutes les Torahs de Rabbeinu, tout ce qu'on a de Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan qui nous l'a enseigné. Rabbi Nathan, il avait un amour pour son prochain qu'on ne peut pas imaginer. Tu t'imagines Rabbi Nathan qui vient, qui te dit, Rabbi Nathan qui était un kadosh, qui était la sainteté personnifiée, qui vient, qui te dit, même si je vois quelqu'un faire toutes les avérotes de la Torah, manger trop du porc, mentir, voler, tromper, tout, encore celui-là, je vais lui trouver du mérite. Tu t'imagines ce que c'était Rabbi Nathan, l'amour qu'il avait pour son prochain. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Azamra. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Celles qui ont été chez Rabbi Nathan et celles qui n'ont pas été priées très très fort, Bezrat Hashem, vendredi, que Rabbi Nathan, il bouge tout dans le ciel pour pouvoir ouvrir Bezrat Hashem le ciel, qu'on puisse retourner. On devait être là-bas, vous savez, on devait partir demain matin. On a dû annuler le voyage. Bon. Rabbi Nathan, tellement ça veut dire, c'était fort, celles qui ont été chez Rabbi Nathan, elles vont pouvoir le dire. Quand on va là-bas, on ressent quelque chose. Ton cœur, il s'ouvre. Ton cœur, il pleure. J'ai une personne qui m'a raconté comme ça. Elle me dit, moi, je suis insensible. Il a dit, mais je suis arrivée chez Rabbi Nathan. Même pas chez Rabbi Nachman. Il a dit, je suis arrivée chez Rabbi Nachman et mon cœur, chez Rabbi Nathan, mon cœur, il s'est ouvert. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé, parce que ça, c'est l'amour. Ça, c'est de l'amour qui déborde. Parce que Rabbi Nathan, il veut te donner.
Avec vous toutes.
Je te promets que chaque personne... Je te promets que chaque personne qui va chez Rabbi Nathan...
J'étais là-bas, c'est la vente.
D'ailleurs, moi, la première fois, je ne sais pas si c'est
ça. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a une union, Michel. C'est vrai qu'il y a une union. Mais Nachon, comment aussi Rabbi Nathan Bémet, quand on va chez lui, il nous laisse pas repartir les mains vides. Chacune de nous, elle repart avec un message. Et souvent, Rabbi Nathan, il fait quelque chose d'énorme. C'est quoi? Tu vas chez lui, tu ouvres le Likouté de Tfilot ou le Halim les Troufa, et il te parle de choses. Tu dis mais quel rapport? Je ne vois pas le rapport. Sache une chose. Rabbi Nathan, il ne va jamais te laisser repartir les mains vides. Ce qu'il t'a dit Rabbi Nathan, aujourd'hui tu ne le comprends pas. Parce que peut-être que tu ne sais même pas qui tu es toi-même. Peut-être que tu te rends compte de rien. Mais Rabbi Nathan, ce qu'il te dit, tu peux être certaine. Ça veut dire si tu prends cette lettre et tu vas commencer à la garder, tu la relis, tu vas voir qu'en réalité, il va te raconter ta vie, il va te dire qui tu es, il va te sortir des fois des défauts que tu peux insoupçonner. Insoupçonner, tu te dis mais c'est pas possible. On a été chez Rabbi Nathan et chez Rabbeinu. On dormait là, voilà. Rabbi Nathan, appelle les escaliers. Voilà, en bas du fleuve. Alors, ça, c'était Rabbi Nathan. Alors, Bémet, une chose, vous allez dire, mais alors, on ne peut pas, comment on va faire? On ne peut pas aller maintenant, c'est fermé. Même là, je peux vous garantir une chose. Bezrat Hashem.
C'est quand le prochain voyage?
Ça devait être demain. Blineder, dès que j'entends que ça s'ouvre, je réfléchis même pas, on y va. Celle qui est venue, elle est venue. C'est chacun sa chance.
C'est déjà bien, c'est
une ouverture. Bezrat Hashem, je veux vous dire une chose. D'abord, on peut tous faire la Liloula de Rabbi Nathan demain soir. Peut-être qu'on va organiser quelque chose. Suivez les groupes. Il se peut qu'on va organiser quelque chose. Ou à Tel Aviv, ou à Jérusalem, je ne sais pas. En tout cas, là où on fait, vous êtes toutes les bienvenues, Bezrat Hashem. Mais celles qui sont chez elles à la maison, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous voulez faire vous-même, sachez une chose, ouvrez ou étudiez quelque chose demain soir. Demain soir, ça commence. Enfin non, vendredi en vrai, mais nous, si on fait la Iloula, c'est demain soir. Vendredi, je sais, il y a le Shabbat, les boulettes, les machins, je sais, grâce à Dieu. Il y a le jeûne. Donc, cuisiner, alors qu'on ne peut pas. Ce jour-là, prenez un moment et ouvrez ou le Likutei Tefillot, ou les mots qui guérissent. Et parlez avec Rabbi Nathan et ouvrez, il vous enverra un message. Et demandez-lui, parce que le jour de l'Eiloula, les tzadikim, ils ont un pouvoir surdimensionné. Allumez le nerf de Rabbi Nathan. Allumez-lui un petit nerf. Demandez-lui les Yeshuot. Mais je vous en prie, ne lui demandez pas juste la parnassa et les trucs bidons. Non, dites-lui Rabbi Nathan, rentre-moi le feu en moi, dans mon cœur. Ce feu qui a brûlé dans ton cœur, je veux aussi qu'il brûle dans mon cœur.
C'est dur de parler comme ça.
Aide-moi à faire tchouva. Mais c'est ça, Iloula, ça veut dire le tzaddik. Ah ouais. Le tzaddik, il peut faire des grandes choses. Tout ce que tu vas prendre, tu vas demander au tzaddik, il va aller chez Hachem, Hachem, il va lui donner. Rabbeinu, c'est Rabbeinu, bien sûr. Mais ce vendredi, c'est ça, Iloula. Tu comprends? À partir de jeudi soir. À partir de jeudi soir, tu allumes et on s'attache à Rabbi Nathan. Bezrat Hachem, si Dieu veut, je vous souhaite à vous toutes de recevoir. D'accord, de recevoir votre délivrance de la part de Rabbi Nathan.
Amen.
Faites passer ce message à toutes vos copines. Ne ratez pas le jour de l'Eiloula de Rabbi Nathan, parce qu'encore une fois, Rabbi Nathan, il a un amour tellement débordant pour chacun de nous qu'il ne nous laissera pas repartir les mains vides. Bezrat Hashem Yitbarar. Qu'on soit zocha, si Dieu veut, Bémet, de pouvoir diffuser la lumière du tzaddik et les enseignements du tzaddik. Amen, Kenei Ratson.